BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être sur BFM Business comme chaque soir. Il est 20h pile. Et nous allons passer encore une fois cette soirée ensemble. 20h, 21h30. Vous le savez, vos 90 minutes de tech. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Avec au sommaire ce soir dans Tech & Co, eh bien, on va revenir sur ce rapport dédié à l'IA, hein, demandé par le président Macron il y a quelques mois de cela. Philippe Aguillon et Anne Bouvreau, les auteurs de ce rapport, seront avec nous sur ce plateau dans quelques secondes. On reviendra aussi sur l'actualité bouillant de l'autre côté de l'Atlantique avec TikTok qui pourrait être bientôt débranché aux États-Unis. Il y a même des rumeurs de rachat de TikTok, en tout cas la version américaine. On évoquera aussi ce sujet. Et puis, on s'intéressera à la télévision sur IP et gratuite avec Rakuten, qui est un site de e-commerce que vous connaissez, mais aussi une chaîne de télé. En tout cas, tout un ensemble de services liés à la télévision que vous pouvez retrouver aussi sur les téléconnectés. Je recevrai le directeur général de Rakuten TV tout à l'heure. Voilà le menu de Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être avec nous et encore une fois, bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Voilà, et on chamboule un petit peu le contenu de cette émission. Vous savez que d'habitude, on débute par une heure de débrief de l'actu. Le débrief de l'actu sera un petit peu plus tard ce soir, à partir de 21h30, car l'actualité, vous le savez, c'est ce rapport dédié à l'intelligence artificielle qui a été remis hier au président de la République. Un rapport contenant 25 recommandations pour faire de la France, vous le savez, un acteur majeur de la révolution technologique et de l'intelligence artificielle. L'IA, on en parle tous les soirs dans Tech & Co. Et on est très heureux et très honoré donc de recevoir les rapporteurs de cette étude. Anne Bouvreau est avec nous. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Merci d'être la présidente du conseil d'administration de l'ENS et co-présidente donc de la commission de l'intelligence artificielle. Et Philippe Aguillon est avec nous aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe, professeur au Collège de France, vous êtes économiste et co-président de la commission de l'intelligence artificielle. Voilà, il est là, ce rapport. J'imagine que vous êtes fier de votre bébé, hein,
parce que
c'est 6 mois de travail.
Oui.
En quelques chiffres, hein, ce travail, c'est 15 membres de la commission et 15 rapporteurs. Je disais 6 mois de travail, 25 séances de travail plénière de la commission, 600 auditions. C'est énorme. 7000 citoyens consultés en ligne, les 25 recommandations. Alors, on va pas avoir le temps de toutes les évoquer. Et puis, 5 milliards par an d'investissement dans les années à venir. En tout cas, c'est ce que vous préconisez. On parlera aussi, évidemment, de gros sous, hein, parce que, bien sûr, pour insuffler cette vague de l'intelligence artificielle à tous les étages, ça coûte beaucoup d'argent. Frédéric Simotel est avec nous. Bonsoir, Fred.
Bonsoir.
Tu
bonsoir.
Vas m'accompagner pendant une grande partie de ce Tech & Co, puisque tu seras avec nous tout à l'heure pour le débrief. Mais je souhaitais que tu sois en notre compagnie pour évidemment interroger Philippe et Anne au sujet donc de ce rapport. Peut-être première question, parce que évidemment tout ça est quand même assez complexe et abstrait finalement, hein, pour le grand public, l'intelligence artificielle. C'est compliqué de comprendre tout ça. Pourquoi ce rapport et dans quel contexte avez-vous décidé de le sortir en quelque sorte ? Peut-être vous.
Oui, allez-y. Merci beaucoup. Pourquoi ce rapport ? Alors, on nous a demandé de le faire, hein, donc à tout seigneur, tout honneur. Mais clairement, l'actualité de l'intelligence artificielle le demande. La France a eu une stratégie intelligence artificielle déjà avec Cédric Villani en 2018. Mais avec l'arrivée de ChatGPT en novembre 2023, c'est vraiment une intelligence artificielle qui utilise des mots et des images.
Novembre 2022, pardon.
Pardon, novembre 2022, vous avez raison. C'était.
Ça va tellement. Ça va tellement vite, c'est vrai.
Vous avez raison. Donc, il y a même pas un an et demi, ou tout juste un an et demi. Et c'est une intelligence artificielle qui utilise des mots et des images, et donc qui concerne tout le monde. Et je pense que ça a fait prendre conscience de l'importance de l'intelligence artificielle, avec une rapidité de déploiement sans précédent par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et en France, on a des acteurs qui sont... on a des chercheurs, on a des entrepreneurs, on a des gens qui font des choses très bien en IA. Donc, on a une capacité à faire des choses et on s'est demandé, avec Philippe et les membres de la commission, qu'est-ce qu'on peut faire pour en bénéficier et aller plus loin.
Énorme responsabilité qui repose sur vos épaules, mine de rien, parce qu'il fallait insuffler les bonnes idées au bon moment, hein. Il y en a 25. On va revenir sur 6 ou 7 d'entre elles dans quelques instants. Mais Philippe, avec qui vous avez fait ce rapport, en fait? Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des milliers de citoyens qui ont été consultés en ligne. Quels ont été les moments importants, en fait, de réflexion de ce rapport?
On était très complémentaires sur ce rapport. Disons que moi, j'ai une certaine réflexion depuis longtemps sur les vagues technologiques, les révolutions technologiques, dans quelle mesure elles peuvent vous donner de la croissance, dans quelle mesure elles peuvent aussi faire surgir des obstacles qui vont contre la croissance. J'avais déjà fait des travaux sur la révolution d'éthique ou d'autres vagues technologiques antérieures. Et donc, pour moi, regarder l'IA et ses effets sur l'emploi et la croissance, c'était le prolongement d'un agenda de recherche que j'avais commencé avec des différents co-auteurs, dont un était rapporteur, en fait, de la commission également, Simon Bunel. Et donc voilà, j'avais cette réflexion, disons, d'économiste en fait, en disant de la théorie et de l'analyse empirique pour analyser les effets sur la croissance et l'emploi des grandes vagues technologiques. Voilà, donc ça, moi, c'est de là que je suis venu. Et donc évidemment, en très très complémentaire de l'expérience de Anne. Mais j'ai énormément appris évidemment au contact des membres de la commission, évidemment, et des rapporteurs et des gens que nous avons eu l'occasion de rencontrer. Voilà, ça donne du concret. Moi, je suis plutôt quelqu'un de théoricien, et là, c'est des régressions, c'est des modèles, et donc à travers Anne et tous nos collaborateurs, voilà, ça devenait beaucoup plus concret pour moi, évidemment.
Alors évidemment, les 15 membres de la commission qui vous ont aidé et les 15 rapporteurs, bon, il y a des personnalités de l'IA que l'on connaît, hein, Luc Julia, Yann Lequin, Arthur Munch, qui est le cofondateur de Mistral, Cédric O, Isabelle Ril, Gilles Babinet. Enfin, on ne va pas tous les citer, Joël Barral, etc. etc. Parmi tous les enseignements, on va rentrer dans les détails avec Fred dans un instant, de tout ce que vous avez annoncé, il y a quelque chose qui est quand même assez fort, c'est que on est en train de vivre une révolution technologique de rupture, c'est-à-dire qu'on n'a pas connu de choses aussi impressionnantes et importantes depuis l'arrivée de l'Internet, c'est ce que vous dites. Oui. Est-ce que ce n'est pas compliqué à la fois d'être positif par rapport à cette innovation, mais aussi ouvrir les yeux sur l'impact que ça va avoir sur notre société, parce que évidemment, Internet a apporté plein de choses formidables, mais aussi a bouleversé en fait notre société. Est-ce qu'on peut s'attendre au même scénario avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, à votre avis?
C'est-à-dire, alors je vais peut-être commencer, et après je...
Et là, on parle d'intelligence artificielle générative, hein, bien sûr.
Alors, du point de vue des économistes, effectivement, chaque fois qu'il y a eu une grande révolution technologique, il y a eu la crainte que ça génère du chômage de masse. D'accord? Quand il y a eu la révolution de la machine à vapeur, il y a eu le mouvement des ludites en Angleterre, ce mouvement de gens qui craignaient de perdre de ne plus avoir de travail. Et quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes craignait que ça donne du chômage de masse, la révolution de l'électricité. Et en fait, jamais ça n'a été le cas. Et quand il y a eu la révolution de la robotisation, il y avait un candidat aux élections en 2017 en France qui proposait la taxation des robots, parce qu'il disait que c'est le seul moyen d'empêcher que ça crée du chômage. Et en fait, ça ne s'est jamais produit. Évidemment, avec l'IA, il y a peut-être beaucoup plus de crainte que ça se produise, parce que l'IA, elle remplace peut-être que la consultation médicale en partie, la génération d'images, la synthèse de notes, traduction, double de films, beaucoup de métiers, on peut se dire mais ça va devenir totalement redondant, l'IA va le faire, ça automatise des tâches qui n'étaient jamais automatisées avant, et ça risque de rendre redondant des métiers qui ne l'étaient pas avant. Donc c'est évident qu'à ce niveau-là, l'IA soulève une beaucoup plus grande crainte de remplacement
légitime.
Et de redondance.
Légitime. Elle est légitime, cette crainte.
Alors, légitime, oui, c'est-à-dire que dans beaucoup de métiers, un métier, c'est un assemblage de tâches. Chaque métier consiste en beaucoup de tâches. Et c'est vrai qu'aucun métier ne peut dire qu'il a aucune tâche qui va être remplacée par l'IA. D'accord? Donc, c'est vrai que l'IA affecte l'ensemble des métiers, beaucoup plus que les révolutions antérieures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait qu'une partie des tâches. Elle permet d'économiser sur les tâches rébarbatives pour pouvoir davantage être créatif. Alors, il y a un certain nombre de tâches, de métiers, dont pratiquement toutes les tâches vont être remplacées par l'IA. Et là, ces métiers sont vraiment risquent de disparaître. Mais nous, dans le rapport, on les évalue à 5% des emplois. Mais c'est toujours important de se soucier des 5%.
Vous les avez déjà identifiés, ces métiers qui vont être fortement impacté par l'IA?
On peut pas d'avance, mais en tout cas, il y a certains métiers dont on pense qu'il y a certains métiers, certains types d'emplois dont plusieurs études convergent, et la nôtre en particulier, pour dire que là, il peut y avoir un risque de remplacement.
Un exemple?
Doublage de films, par exemple, je ne sais pas si ça va être totalement remplacé. Certains métiers de clerc de bureau, peut-être dans certaines formes, peuvent être risques de remplacer.
Traduction, par exemple. Traduction aussi, voilà, bien sûr. Les interprètes.
Absolument, oui. Interprètes.
Oui. Ce qui change un peu par rapport, et justement par rapport aux autres rapports que j'avais pu faire sur ces révolutions, pour moi, c'est ce qui me sidère, c'est la rapidité. C'est-à-dire, absolument, auparavant, voilà, quand oui, la machine à vapeur est arrivée, on avait un peu de temps avant de s'installer. Même quand l'informatique est arrivée, même quand on a vu Excel arriver, on s'est dit oui, allez, on a mis plusieurs années avant de s'habituer, de voir que ça allait ça remplacer. Ça. Mais là, ce qui est complètement fou, j'étais avec des entreprises hier, ils sont sur des projets, ils les ont démarrés en mai 2023, ils sont déjà en train de les appliquer, et ça change déjà pas mal de choses. Quoi. Et là, il faut préparer les collaborateurs, les salariés, les
gens. C'est ça, c'est l'objet du rapport. Mais je voulais quand même dire une chose à propos de la délice de la partie économique, c'est qu'on a, ce rapport contient une étude économique avec tout un échantillon d'entreprises et on regarde l'effet sur l'emploi. Oui. C'est l'étude la plus grosse qui a été faite jusqu'à maintenant mondialement sur le, regardant les effets de l'emploi sur l'emploi de l'IA. Et on montre que, et c'est sur une période de 2-3 ans, que les entreprises, en tout cas de notre échantillon, qui adoptent l'IA, par rapport à des entreprises identiques ou très similaires qui ne l'adoptent pas, sont nettes créatrices d'emplois. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles les créent uniformément, donc on est quand même sur 2-3 ans. Donc, ça veut dire que très vite, elles créent des emplois. Alors, peut-être, qu'est-ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans ? Notre étude ne le dit pas. Mais c'est quand même intéressant que très vite, globalement, elles sont créatrices. Alors, elles ne le sont pas uniformément. Il y a des emplois, donc, comme ceux que je mentionnais tout à l'heure, ou certains niveaux qui sont où il y a moins de création, il y a peut-être même des destructions. Mais globalement, elles créent des emplois. Donc, c'est quand même très intéressant et très rapidement. Parce qu'en fait, c'est un effet de productivité. Quand elles adoptent l'IA, elles deviennent beaucoup plus productives, donc beaucoup plus compétitives. Donc le rapport qualité-prix s'améliore et donc elles ont un marché pour leurs biens plus important et donc elles embauchent davantage. Cet effet semble dominer. Alors c'est une période de 2-3 ans. C'est intéressant que c'est très rapide cet effet-là.
Est-ce que vous pensez que ces métiers qui vont être fragilisés, vous parliez des interprètes, des doubleurs, etc., il faut d'ores et déjà peut-être plus les sensibiliser que d'autres au tsunami qui va leur arriver dessus. Comment faire, en fait ? Comment aborder ce sujet ?
Moi, je pense qu'ils sont déjà très sensibilisés, pour parler à un certain nombre de personnes dans ces métiers-là. Et je pense qu'il faut sensibiliser tout le monde. Ce que disait Philippe, c'est un enseignement qui est très important de notre rapport, c'est que, globalement, statistiquement, au total, il n'y aura pas de perte d'emploi majeure. Il y aura un certain nombre d'emplois qui sont plus à risque, mais qui sont déjà à risque, les métiers de traducteurs ou autres. Il y aura des nouveaux métiers qui commencent déjà à être créés. Et donc, c'est cette transformation. Mais entre les deux, il y a 80% des emplois, 70% qui vont être transformés, parce que certaines de leurs tâches changent. C'est comme quand on a appris à se servir d'Excel et de PowerPoint, ça a changé un peu nos métiers. Là, c'est sûrement plus important, ce qui veut dire que la formation, il faut qu'elle soit pour tout le monde et surtout le plus vite possible, parce que Frédéric le disait, ce qui est vraiment frappant, c'est la rapidité. On ne peut pas penser que c'est la génération suivante ou que c'est quand on changera de job dans 5-10 ans qu'on s'y mettra. Il faut vraiment se mettre à se former tout de suite.
Juste un mot sur la rapidité. On voit aux États-Unis, alors les acteurs de la tech en ce moment ont beaucoup licencié. Et puis finalement, alors certes, évidemment, pendant la crise Covid, en sortie de crise, ils ont beaucoup embauché parce qu'ils imaginaient faire tout un tas de projets. Donc ils ont revu un peu leurs estimations. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, que même en croissance, ils embauchent moins. Donc est-ce que ça veut dire aussi est-ce que là-bas il n'y a pas déjà ce premier effet de ces technologies qui permettent d'avoir une croissance sans être obligé de recruter davantage pour des nouveaux projets ?
Globalement, c'est peut-être à toi de dire, mais il me semble que leur niveau de chômage est plutôt le plus bas historique, globalement, aux États-Unis.
On n'observe pas, il y a des études très micro, et qui, en tout cas au niveau très micro, ne trouvent pas qu'il y ait, au total, alors peut-être dans certains secteurs plus que dans d'autres, effectivement. Donc, par exemple, des entreprises qui sont qui adoptent l'IA pour la gestion administrative ou le marketing, peut-être que là, voient l'emploi, notamment dans des professions intermédiaires administratives, baisser. Donc, vous voyez, c'est ciblé, c'est dans certains domaines.
Alors, je vous propose maintenant de nous plonger dans ce rapport. Alors, on ne va pas commenter les 25 recommandations, mais peut-être s'intéresser aux prioritaires. Elles sont de l'ordre de 6 ou 7, et je vous propose peut-être de prendre le temps, peut-être une ou deux minutes à chaque fois, pour essayer de mieux les comprendre. La première, c'est la sensibilisation à la formation, qui est capitale. Aujourd'hui, nous, tout autour de cette table, on connaît l'IA, on se rend compte des enjeux, mais on est 60 millions en France, et évidemment, à l'échelle européenne, c'est plus de 300 millions. La sensibilisation, la formation, pour vous, c'est la mesure prioritaire aujourd'hui ?
C'est la première, en tout cas très clairement, et on l'a mise comme ça dans le rapport. Il nous semble qu'il faut un plan de sensibilisation et de formation majeur, Et quand on dit majeur, c'est ça commence à la maternelle. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de transformer tous nos élèves de maternelle en codeurs informatiques, mais voyez, avoir des discussions avec la maîtresse, le maître sur cette image d'une girafe qui est en train de manger sur la lune ou d'un pack dans une doudoune de luxe. Est-ce que c'est une vraie image ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez pour développer cet esprit critique qui est clé face à notamment la désinformation ou les risques associés? Après, il faut des formations professionnalisantes, supérieures, en informatique. Il faut aussi des formations IA et droit, IA et histoire, IA et pour voir oui. comment on utilise ça dans tous les domaines. Il faut bien sûr, pour les personnes qui sont en poste, que les aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour leur métier, comment ça va changer, comment leur métier va changer. Les chômeurs, les citoyens, il faut qu'on ait des plans de sensibilisation dans les territoires pour que chacun puisse expérimenter, jouer avec, se dire en fait c'est pas si terrible que ça.
On a raté la formation des réseaux sociaux. On peut le dire, hein, auprès des jeunes. Oui. Il faut pas rater celle de
l'IA. C'est très important, par exemple, les bons usages et les mauvais usages. Très tôt inculquer qu'est-ce que c'est qu'un bon usage et un mauvais usage. Et alors, nous, on propose, on a cette idée de café IA, de grand débat IA, enfin, on propose ça. Mais très vite aussi, à l'école, et, dire qu'est-ce que c'est qu'un mauvais usage de l'IA. Ça, on pense que c'est
Et puis, je crois que le rapport est assez clair aussi. Vous dites, on a besoin d'ingénieurs, data scientists, etc. Oui. On a 15 000 aujourd'hui, il en faudrait 60 000 en horizon 2030. Donc, c'est cette partie-là. Mais je trouve que ce qui est important et qu'il faut souligner dans le rapport, c'est ce que vous venez de dire. C'est, quand on dit former et sensibiliser à l'IA, c'est pas juste des techniciens, des ingénieurs, des gens qui suivent des carrières scientifiques, et fort heureusement, parce qu'il y en a de moins en moins.
Il faudrait qu'il y en ait plus.
Oui, c'est vrai qu'il y en ait plus, ça c'est une autre histoire. Mais ça pourrait accompagner d'ailleurs, parce que ça pourrait ouvrir. Mais c'est justement montrer que la formation, elle doit aller dans tous les métiers. Nous, journalisme, et les avocats, vous parlez du juridique. Et ça, je pense que c'est vraiment l'un des messages forts à faire passer. C'est pas justement du codage, des gens scientifiques à qui on va pousser un peu vers l'IA, c'est vraiment tous les...
Et dans l'enseignement supérieur, tu fais du droit, mais tu fais droit et il y a de l'IA dedans. Mm-hmm. Tu fais la physique, tu as de l'IA dedans.
Deux médecins ne font pas un meilleur médecin, mais un médecin, un data scientist, ça fera une meilleure médecine.
Enfin, on ne remplace pas le médecin par une IA, mais on fait la conjonction des deux.
Donc c'est un travail colossal qu'il faut mener de concert avec l'éducation nationale, on est d'accord?
Absolument.
Okay. Oui, et pas que, avec le temps périscolaire, avec l'éducation nationale.
Et l'éducation supérieure.
Bien sûr, et l'éducation.
Deuxième recommandation, là on rentre dans les sous, parce que c'est important, il faut évidemment investir massivement dans les entreprises du numérique, dans l'écosystème français de l'IA, pour qu'on puisse émerger, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ce qu'il y a d'intéressant derrière tout ça, c'est que la France a un vrai terreau d'excellence dans le monde de l'intelligence artificielle, hein. C'est peut-être pour ça aussi que ce rapport a énormément d'importance, hein. On a un vrai savoir-faire dans ce domaine.
C'est la chose majeure qui peut être faite le reste du quinquennat. Je crois vraiment que c'est vraiment là que le quinquennat peut faire une différence à partir de maintenant.
Sur l'investissement ?
Sur l'IA.
Sur l'IA d'une manière générale, d'accord.
L'investissement, pour nous, c'est deux choses. Il faut financer l'émergence d'un écosystème d'IA, puissance de calcul, formation, recherche, etc. Et puis deux, il faut financer la transition numérique de l'ensemble du tissu économique français, notamment les PME. C'est vraiment... Et la puissance de calcul, évidemment, est incontournable. On ne peut pas se reposer uniquement sur les puissances de calcul aux États-Unis ou ailleurs. Il faut qu'on développe notre puissance de calcul.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un peu tabou au sein du gouvernement. Malheureusement, votre rapport tombe, on va dire, pas au bon moment, si je puis me permettre, hein, parce que c'est vrai qu'on le voit, notre pays est surendetté, des économies à tout va, Bruno Le Maire le disait.
Il n'y a jamais de bon moment, mais Philippe a une très bonne réponse.
Mais là, alors, moi, je viens régulièrement sur BFM Business.
Oui. C'est 5 milliards pour vous. Hein,
5 fois 5,
c'est 25 milliards. C'est 5 milliards par an.
C'est-à-dire 3 fois ce qui avait été envisagé de dépenser jusqu'à maintenant. Pour le moment, c'était 3 milliards sur 8 ans et on passe à 5 fois 5.
Ouais. D'accord. Dans ce contexte d'économie, est-ce que vous avez déjà jaugé justement...
Alors, si vous voulez, notre raisonnement est le suivant. C'est-à-dire, d'abord, je crois qu'il y a une doctrine en économie, c'est de dire qu'il y a deux types de dépenses. Il y a les dépenses de fonctionnement dans le budget de l'État, et il y a les dépenses d'investissement et d'investissement dans la croissance. Quand vous investissez dans la croissance, eh bien, vous améliorez votre capacité à repayer votre dette à long terme. Or, dans le rapport, on est très cohérent parce qu'on montre d'abord qu'il y a un impact de croissance. On pense, par exemple, qu'on est à un stade maintenant de la mise en œuvre de la vague d'intelligence artificielle qui peut donner un surcroît de croissance d'un point par an pendant 10 ans. Ça, c'est une. Et on considère que c'est une évaluation assez pessimiste, parce qu'on ne prend pas en compte le fait que l'IA, non seulement permet en partie d'automatiser la production des biens et services, mais d'automatiser la production des idées. Elle améliore la technologie de recherche. Elle permet à la recherche d'être plus productive. Donc, en fait, on considère que notre 1%, qui est basé un peu sur l'extrapolation, on extrapole de ce qui s'est passé avec les révolutions précédentes, est en fait très conservatrice. On pense que ce sera plus que ça. Voilà. Donc on sait que l'IA, en tout cas, a un potentiel formidable de croissance. Et donc, investir dans l'IA, c'est investir dans la croissance. Donc, ce n'est pas du tout sur le même plan que d'autres dépenses publiques qui, elles, n'augmentent pas la croissance et n'augmentent pas votre capacité de repayer la dette.
D'une hausse du PIB, d'ailleurs.
Absolument.
250 et 420 milliards d'euros. Ce qui représente l'activité industrielle en France aujourd'hui. Quoi.
Ce qu'on propose, par ailleurs, ça ne représente que... Vous savez que les dépenses publiques dépassent 1600 milliards d'euros. 5 milliards, c'est 0,3%. Des dépenses publiques. Donc on dit simplement, et on sait qu'il était prévu d'augmenter les dépenses publiques de 220 milliards d'euros en 5 ans. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est que vous avez déjà prévu d'augmenter les dépenses, essayez de... Vous voyez, c'est pas grand-chose qu'on demande.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que...
C'est une petite réorientation, mais qui a une formidable capacité à générer de la croissance. Vous voyez, c'est ça le raisonnement économique.
Oui, ce que vous dites, c'est que finalement, ces 25 milliards, évidemment, à l'échelle d'un budget, c'est beaucoup d'argent, mais à l'échelle de la révolution et du rendement que ça aura dans notre société dans les années qui viennent, c'est presque rien, finalement.
Absolument. Surtout, vous donnez quelques pistes. Je crois qu'en France, vous savez ça mieux que nous, vous participez régulièrement avec Nicolas Dose, ici, aux experts. C'est l'épargne des Français, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros d'épargne qui pourraient être fléchés justement vers cet
investissement. Dans l'immobilier, pour l'essentiel. Dans les dépenses qui ne sont pas les dépenses productives.
Faire venir, alors on les voit arriver, grâce à Mistral, on a vu que, un Microsoft, un Nvidia, un Salesforce, peut-être un SoftBank, conglomérat japonais, sont en train d'investir dans des sociétés françaises. Votre objectif aussi, c'est d'essayer d'attirer davantage ces investisseurs étrangers à mettre de l'argent en France, en tout cas.
Avoir de l'investissement français et européen aussi.
Mais c'est l'attractivité. Je veux dire qu'on s'est battu pour l'attractivité en France. Si on loupait la révolution de l'IA, si on loupait l'IA, eh bien, notre attractivité va retomber parce que les entreprises françaises vont devenir moins compétitives. C'est pas seulement qu'on va empêcher les entreprises d'IA de venir en France, des nouvelles start-up d'IA de se créer en France. C'est que c'est la productivité de l'ensemble des entreprises qui va être handicapée par rapport aux autres, aux autres pays. Oui. Et du coup, le surcroît d'attractivité qu'on a eu depuis 2017, notamment grâce à la réforme fiscale et grâce à la réforme du marché du travail, on va la perdre si on loupe cette révolution.
Alors, autre, on va dire, point très fort, recommandation, c'est la puissance de calcul. Parce que, effectivement, cette intelligence artificielle, notamment générative, nécessite énormément de puissance de calcul. C'est un peu la chair à canon du résultat de tout ce que ça peut amener. Là aussi, c'est des investissements que vous chiffrez dans ces 5 milliards par an.
Oui, c'est tout ça. À fait. Donc c'est à la fois, vous avez raison de le rappeler, l'intelligence artificielle dépend de deux choses, des données et
des talents des développeurs et des talents, c'est là où on est excellent, bien sûr.
Mais également de beaucoup de données, surtout dans l'IA générative, et de beaucoup de puissance de calcul. Et aujourd'hui, les modèles qu'on a même en France sont entraînés aux États-Unis ou dans d'autres géographies. On n'a pas les centres de calcul qui permettent de le faire. Donc c'est pour ça qu'on a cet objectif, de même que sur les données.
Donc investir dans des supercalculateurs, de créer nos propres réseaux puissance de calcul.
Des gens zés, comme ça.
Enfin, bien sûr, mais en avoir d'autres.
Mais qu'il faut multiplier encore sa puissance. Il y a le projet EuroHPC, pour...
Et donc ça, c'est pour la recherche, et c'est très bien. Et il faut aller plus vite vers des capacités...
Non, il faut pour les entreprises.
Et puis, il faut aussi pour les entreprises, et ça, c'est cette recommandation sur la puissance de calcul.
Autre recommandation intéressante, c'est évidemment l'approche de la donnée personnelle pour continuer à protéger, parce que bien sûr, on le voit, c'est ce qu'on pointe du doigt avec OpenAI et ChatGPT, c'est que c'est une espèce de vampire de données, parfois personnelles aussi. Point important. Parmi toutes vos recommandations,
si les données sont complètement
isolées. Se passe, c'est que les IA et l'IA génératif fait appel à beaucoup beaucoup de données sans nécessairement les exploiter de manière très spécifique. Donc il y a ce côté accès à beaucoup de données. Vous voyez, on prend tout ce qu'il y a sur Internet et puis on le parcourt une fois. Si c'est ça, il n'y a pas beaucoup de risques sur les données personnelles. Si on se réentraîne beaucoup sur la même chose, là on peut tomber sur des données personnelles ou des choses sujettes aux droits d'auteur. Et et ça, il faut qu'on y fasse attention. Donc on a à la fois une approche de la donnée personnelle qu'on veut continuer à protéger. On a la chance d'avoir la CNIL en France, on a la chance d'avoir une réglementation depuis des années là-dessus. Mais il y a des domaines où ça devient compliqué de pouvoir innover, par exemple sur les données de santé. Donc on a quelques recommandations qui vont...
Davantage d'ouverture de ces données.
Oui, parce qu'en fait, des processus plus simples.
Voilà, parce que voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, certaines règles et pratiques françaises sont plus contraignantes que le cadre européen. Le cadre européen, c'est le règlement général de la protection des données, et l'approche, elle est ex post, c'est-à-dire de dire, on laisse quand même, on responsabilise les acteurs, et on surveille que les choses se passent bien, et si ça va pas bien, on sanctionne ex post. Nous, c'était vraiment l'approche, la loi informatique et liberté, qui est une approche très ex ante, c'est-à-dire autorisation préalable. Mais par exemple, dans le domaine des domaines de santé, ça peut prendre 18 mois d'avoir l'autorisation. Oui. Et donc, on a perdu. C'est terminé.
Oui, on n'a pas de données pour faire tourner le modèle.
C'est un alignement complet sur la RGPD et supprimer les procédures d'autorisation préalable qui s'appliquent aux données de santé. Et comme ça, on s'aligne sur la RGPD. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. On veut la RGPD, mais on ne veut pas plus que la RGPD. Quoi.
Alors, le temps nous est compté, malheureusement. On arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais quand même vous poser une question sur le calendrier idéal que vous voyez par rapport à ce rapport. Parce que tout ça, c'est bien beau, ce sont de très bonnes idées, mais il faut après les mettre en œuvre, appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous aimeriez comme calendrier respecté par rapport à tout ce que vous avez préconisé ?
Alors peut-être que je vais commencer. Il y a plusieurs choses. Je pense que le côté plan de formation et plan de sensibilisation, il faut le lancer le plus vite possible. En plus, c'est pas ça qui va demander le plus d'argent. Lancer un grand débat public, mobiliser des plans de formation dans les grandes entreprises, il y en a déjà, mais il faut le faire plus largement partout. Ça, je pense qu'il faut vraiment y aller très vite. Il y a aussi une opportunité qui est que la France va organiser le prochain sommet international sur l'intelligence artificielle. Probablement dans un an à peu près, suite à celui qui a eu lieu en Angleterre à Bletchley Park en novembre de l'année dernière.
Rendez-vous très important, bien sûr, puisque la France sera la capitale mondiale de l'IA.
Exactement. Et donc s'inscrire dans cette route vers le sommet en ayant un certain nombre d'annonces
C'est un peu les JO de l'IA, quoi, finalement.
C'est un peu les JO de l'IA en tout début 2025. Je pense que c'est une opportunité pour avoir de manière régulière des annonces qui, nous l'espérons, seront en ligne avec...
Un peu comme des rendez-vous comme France 2030, des choses comme ça, qui, on va dire, sanctuarisent des annonces très fortes sur des thèmes donnés. Il faudrait un rendez-vous régulier sur l'IA comme celui-ci, vous pensez ?
Oui, alors ça, c'est sommets internationaux. Je pense que donc, la France prend la suite de l'Angleterre.
D'accord.
Ça va forcément continuer à tourner. Mais bien sûr, c'est un sujet qui est tellement international...
Mais qu'à cette occasion, on annonce des choses concrètes.
Oui, parce que c'est un sujet tellement international que la France toute seule ne peut pas décider de faire des choses. Par contre, on peut l'impulser, montrer qu'on a un rôle important et arriver à avoir, par exemple, des normes globales, des choses comme créer un fonds pour des projets d'IA d'intérêt général, pour s'intéresser aussi à l'IA, non seulement pour tous les citoyens, mais pour l'ensemble de l'humanité, y compris dans les pays qui sont en voie de développement. Je pense qu'il y a plein de choses à faire.
Et ce sommet d'IA, donc, on l'imagine l'année prochaine, c'est ça ?
Début d'année prochaine ? En début d'année prochaine, il faut que le président de la République annonce la date.
Très bien. Bon, bah, écoutez, on va suivre ça de près. Forcément, ce sera un rendez-vous qu'on suivra de manière passionnée ici sur BFM Business dans Tech & Co.
Merci beaucoup.
Merci Anne Bouvreau.
Merci pour cette invitation.
Et Philippe Aguillon, vous êtes tous les deux les rapporteurs donc, de ce...
Président.
Voilà. Les présidents, de ce rapport sur l'IA, notre ambition pour la France. Alors là, j'ai la version, on va dire, imprimée, mais il existe aussi une version PDF.
Digitale.
Que vous allez pouvoir parcourir. Puis il y a même des résumés.
Il y a un résumé en anglais aussi.
En plus.
Ceux qui veulent le transmettre.
On peut demander à l'IA générative de nous le résumer.
Voilà, on peut demander à ChatGPT de le résumer. Ça serait intéressant de voir comment il s'en sort. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Tech & Co.
Merci.
Fred, tu restes avec nous. On va débriefer tout ce qu'on a dit maintenant dans quelques instants pour juste après l'info éco. On retrouvera André Losgut-Pietri et puis Théo Leblanc qui nous rejoindra, qui est un spécialiste de l'IA. Donc vous restez avec nous. Tech & Co revient juste après l'info éco. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et toujours mon camarade Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Ce soir, nous avons aussi le plaisir d'accueillir André Losgood-Pietri. Bonsoir André.
Bonsoir François.
Président de la Joint European Disruptive Initiative, le fameux JEDI. J'imagine que tu as plein de choses à nous dire concernant ce rapport dédié à l'IA. On pourra peut-être évoquer aussi l'IA Act. C'est vrai que l'actualité s'entrechoque, dédié à l'IA en ce moment. Et puis on accueille pour la première fois sur le plateau de Tech & Co pour débriefer tout cela, Théo Leblanc. Salut Théo.
Bonsoir François.
Bienvenue.
Merci.
Théo a 17 ans, enfin 17 ans et demi. C'est ça, hein? Bientôt 18, ce sera en octobre prochain. Je crois que c'est le plus jeune débriefeur qu'on ait jamais eu dans Tech & Co. Hein, il nous donne une claque à tous, là, en ce moment. Théo, tu es expert réseaux sociaux, IA, tu as ta chaîne YouTube, tu cartonnes, en fait, tu as énormément d'audience sur ces sujets parce que, en fait, tu t'es accaparé ces sujets de l'IA, c'est ça? Et tu en parles, tu essaies d'être très pédagogique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais?
Ça. Alors aujourd'hui, je suis principalement sur LinkedIn et avec une newsletter. Ouais. YouTube, c'est encore en lancement. Aujourd'hui, c'est un peu en stand-by. Mais ce que je cherche à faire, c'est vulgariser, pas uniquement comment bien servir des IA, bien sûr, forcément un peu comment est-ce qu'on s'en sert bien, mais surtout comment fonctionnent les modèles derrière. Vraiment faire un travail où sur le long terme, que les personnes qui me suivent puissent comprendre au-delà des apparences comment fonctionnent les technologies derrière, sur quoi se basent les tendances, afin qu'elles soient capables de s'adapter sur du long terme et pas uniquement en maîtrisant le dernier mot de ChatGPT à la mode, ce que je trouve pas très utile et finalement pas très pertinent sur du long terme. On va faire de l'éducation, mais uniquement des astuces.
D'accord. Donc, par exemple, sur Midjourney, tu vas nous donner des petits conseils, des choses comme
justement,
ça.
Je vais plutôt expliquer, OK, comment est-ce que fait Midjourney pour générer des images à partir de zéro, seulement à partir d'un texte. Quelle est la technologie derrière? Et mon rôle, c'est de le vulgariser pour que la boulangère puisse le comprendre.
Parfait. Imagine une boulangère qui sert de Midjourney pour faire des pains magnifiques.
En plus, on vient de nous dire à l'instant qu'il fallait que tous les métiers s'intéressent à l'IA.
Voilà, exactement. André et Théo, justement, vous avez peut-être écouté nos invités tout à l'heure, Philippe Aguillon et Anne Bouvreau, concernant ce rapport dédié à l'IA qui a été commandé par le président Emmanuel Macron. Est-ce que on part dans la bonne direction, selon vous, avec ce plan? Peut-être commencer avec André, puis après Théo nous dira ce qu'il en pense.
Alors je crois que ce que vient de dire Théo, et c'est probablement la chose positive que je retiens de ce rapport, c'est cette volonté d'expliquer et de faire en sorte que ça soit vraiment un sujet qui soit pas juste un sujet limité à une petite sphère, soit des start-up, soit des technophiles ou des scientifiques, mais que c'est un vrai changement de société, une vraie révolution industrielle. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Après, je vais être très direct, je pense qu'il faut se dire les choses, et parmi la quinzaine de membres de la commission, la plupart sont des amis, notamment Philippe et Anne, mais j'ai envie de dire un rapport de plus pour enfoncer des portes ouvertes. Le fait que ça soit une révolution comme l'électricité, Eric Schmidt ou plein d'autres le disent déjà depuis 6 mois, je rappelle qu'aux États-Unis, il y a une commission pour la sécurité sur l'IA qui a été montée en 2018, donc on a juste 6 ans de retard. Et enfin,
on avait le rapport Villani, nous.
Et ben voilà, 2018. Et c'est l'autre chose, c'est qu'il y a une mention du rapport Villani, et on a un peu l'impression qu'on est le pays qui adore faire des rapports. On ne parle pas du tout du retour d'expérience, comme on dirait dans les armées. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai envie de dire, où est l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait des 3 milliards du rapport Villani? J'entends le président de la République qui secoue, et à juste titre, son administration pour être plus agile, etc. Eh bien, commençons déjà par l'IA pour passer à l'action. On sait ce qu'il faut faire. Et enfin, il y a quelques vraiment énormes impasses dans ce rapport que je pense qu'il faut pointer. J'ai beaucoup entendu Anne parler de la puissance de calcul.
Anne Bouvreau. Hein,
et de la Anne Bouvreau. On va probablement, avec l'électrification en France, les véhicules électriques et tout ça, déjà avoir probablement une impasse d'électricité à partir de 2027-2028. Je ne sais pas si ce chiffre est connu, mais on estime qu'aux États-Unis, il va falloir deux fois plus d'électricité d'ici 2035, rien qu'à cause
pour alimenter en fait tous ces modèles
d'IA.
Puissance de calcul.
Donc aujourd'hui, il est impossible d'imaginer que cette courbe aille, et juste de penser on va attirer. Moi je pense au contraire qu'il va y avoir une tendance inverse, c'est-à-dire on va voir de plus en plus de grandes agglomérations refuser d'avoir des centres d'entraînement de l'IA chez eux. Donc ce genre d'impasse me semble. Et l'autre chose, c'est une guerre des talents. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on sait que chez ChatGPT, la moyenne des salaires c'est 1 million, enfin c'est 950 000 dollars par personne, moyenne d'âge entre 25 et 30 ans. La concurrence, elle est sur les talents. Alors, je sais que beaucoup d'argent va être mis là-dessus, mais voilà. Donc, première chose, bonne chose sur la pédagogie, la volonté de faire, de changer de méthode. Le problème, c'est que ce qui a été repris par les médias, c'est essentiellement les 5 x 5 milliards. Désolé, mais on les a pas. Je veux dire, donc il faut vraiment changer de méthode et être beaucoup plus efficace avec l'argent investi. Donc c'est quoi les sujets où on veut être en tête? Est-ce que véritablement on met en œuvre le fait de se concentrer sur quelques talents? Je rappelle que le rapport Villani, il voulait se concentrer au début sur attirer les meilleurs talents. Finalement, on a distribué des centaines de chaires d'IA un petit peu partout. On a fait 4 centres, je crois, 3 IA. On sait faire ce qu'on, ou là où on est les champions du monde en France.
C'est chercher à Polytechnique.
C'est du saupoudrage. On fait du saupoudrage généralisé. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça dépend que de nous. Mais là, j'ai envie de dire un rapport de plus qui fait que repousser le tas de sable.
Théo, quel est ton point de vue justement sur ce rapport? Parce que je sais que tu l'as étudié. Qu'est-ce que tu en penses?
Le problème, d'ailleurs, tu t'en as parlé sur l'électricité, c'est qu'il y a plusieurs points sur les chiffres où concrètement ce ne sera pas mis en place. Parce que par exemple, tu parles pour la problématique de l'énergie. Il y a une estimation qui est faite dans ce rapport, c'est que les investissements en IA et l'IA représentera en 2027 l'équivalent en production énergétique d'un pays comme l'Angleterre ou l'Argentine. Ce qui est démesuré. Et ce qu'aujourd'hui on n'est pas forcément capable d'assumer, il n'y a pas les infrastructures énergétiques qui suivent. Il faudrait, oui, potentiellement, on parle.
Il faudrait ouvrir quelques centrales nucléaires.
Ou alors avoir ce point dont on parle
et
beaucoup.
Et on n'en prend pas le chemin, malheureusement.
Non, malheureusement. Et puis, le problème, c'est qu'il faut 20 ans, 30 ans pour arriver à développer ces technologies nucléaires.
Mais à côté de ça, en fait, dans ce rapport, oui, les chiffres sont bien, sont grandiloquents, permettent de faire des belles annonces. Je pense que ce n'est pas le plus important, ce sur quoi se concentrer. Il faut plutôt se concentrer sur, OK, quels sont les points les plus mis en avant. On en a parlé, c'est le fait de faire de l'éducation auprès des grandes populations, de tenter de faire, finalement, montrer que l'IA, ça s'adresse à tout le monde, montrer à tout le monde comment s'en servir, le démystifier, que ça ne soit pas plus, enfin que ça ne soit plus une boîte noire, un mot un peu bizarre dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais que n'importe qui puisse comprendre, se l'approprier et soit capable de jouer avec dans les prochaines années.
Et c'est la première recommandation d'ailleurs de ce rapport. C'est un peu dur, André, quand même.
C'est celle que j'ai mis en avant comme étant vraiment positive, c'est-à-dire c'est la lucidité, la sensibilisation. Ouais. Mais
C'est ce que tu fais d'ailleurs, Théo.
Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, malheureusement, ChatGPT le fait pour nous. Je rappelle que ChatGPT, c'est le taux d'adoption dans le grand public. C'est ce qui est véritablement mis le sujet de l'IA, pas juste un sujet de spécialiste, mais un sujet de grand public, vraiment de grand public. Donc ça, c'est très positif. Donc il faut aller plus loin.
Mais l'exemple que donnait Anne était très intéressant. Par exemple, dès le plus jeune âge, expliquer aux enfants que cette photo, quand on voit le pape avec peut-être une grosse doudoune, c'est pas possible. C'est forcément.
J'ai envie de mettre les gens devant leurs contradictions. Je vous donne un exemple très concret. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un programme de recherche à quelques millions d'euros, donc je dis bien millions et pas milliards d'euros, pour la détection en temps réel de ces fameux deepfakes, c'est-à-dire les vidéos fausses générées par l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, ça marchait pas très bien. Aujourd'hui, les grands modèles de langage, la traduction automatique permet de rendre ça. Et c'est un danger mortel pour nos démocraties. Tout ce qui a aujourd'hui une réputation, une banque, un homme politique, un homme ou une femme politique.
Peut-être potentiellement visé.
Et c'est demain. C'est les élections européennes en juin, c'est les élections américaines. Eh bien, tenez-vous bien, pour mettre quelques millions d'euros dans ce genre de projet de recherche, vraiment de rupture, là, le gouvernement est aux abonnés absents. Par contre, pour distribuer largement dans les centres de recherche, de faire des annonces, je suis un petit peu dur, mais je pense que véritablement, on n'est plus au temps des recommandations. On sait ce qu'il faut faire, mais on est au temps de l'action. Et aujourd'hui, malheureusement, les grandes entreprises américaines de la tech sont en train de capitaliser. On a beaucoup parlé des données, je crois aussi, avec Anne Beauvreau et Philippe Aillon. Mais ils sont en train de capitaliser sur la masse énorme de données. Et il y a quelques projets de recherche simples. Est-ce qu'on peut faire de l'IA qui consommerait 1 million de fois moins d'énergie qu'aujourd'hui? Ça, c'est un projet où la France et l'Europe peuvent repartir en tête. Est-ce qu'on peut faire de l'IA qui n'utilise pas...
C'est un peu le cas de Mistral, non? Qui, je crois, consomme beaucoup moins de puissance de calcul que ChatGPT à pertinence d'IA égale. Non, enfin, je sais pas, j'avais cru lire ça.
Ils utilisent un peu moins de tokens et tout ça.
Ils utilisent un peu moins de données.
C'est une petite optimisation. C'est pas quelque chose de révolutionnaire.
C'est pas révolutionnaire.
C'est
toujours cette prise, cela dit, si c'est le cas.
C'est toujours cette prise. Et l'autre grande chose,
on en parle dans le rapport, d'ailleurs. On en parle, c'est que là-dessus, mais surtout que là-dessus, il y a un vrai intérêt pour les entreprises à réduire les coûts, parce que c'est aujourd'hui leur coût principal, c'est le coût d'entraînement, c'est l'électricité qui coûte extrêmement cher, et il y a un intérêt direct. Je prends l'exemple d'une entreprise qui a fait beaucoup de bruit récemment, Grok, pas d'Elon Musk, mais GROQ, qui a sorti des nouvelles puces spécialisées dans l'inférence, donc dans l'utilisation des modèles de langage, et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher, qui consomme beaucoup moins.
Et qui est beaucoup plus rapide aussi. C'est incroyable la rapidité, la latence. puissance qu'il y a avec Grok, c'est fou.
Et là-dessus, sur l'électricité, je pense que c'est ce genre vers ce genre de technologie, c'est aussi ce qui est évoqué dans le rapport, qu'on va se diriger, où ça ouvre de nouvelles idées de start-up.
Donc ça vient contredire ce que disait André, c'est-à-dire
non,
que finalement...
Non, ça va avec. C'est que ça va complètement avec.
Mais je termine, André. Deux secondes, excuse-moi. Parce que tu disais qu'avec cette montée en puissance de calcul, on va consommer beaucoup plus d'électricité, mais peut-être que finalement, on va arriver à être moins consommateur d'énergie pour avoir le même résultat finalement avec les optimisations. L'exemple, c'est Grok finalement.
Oui. C'est un exemple, mais c'est pareil partout. C'est un peu l'approche. Est-ce qu'on décide d'investir dans la technologie en pariant sur le fait qu'on sera capable de la développer assez pour qu'au final on consomme moins de ressources et que ce soit beaucoup plus efficient, ou alors on consomme uniquement les ressources qu'on a à notre disposition? Et là, c'est plus une question philosophique que vraiment on n'est pas capable de voir dans l'avenir. Et les différents experts se contredisent tous parce qu'on ne peut pas vraiment savoir aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans, quelles seront réellement les innovations technologiques, quelles seront les révolutions qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable d'imaginer aujourd'hui. Donc, c'est plus un pari idéologique.
Fred,
moi plusieurs choses. Bon, alors déjà, il faut.
Est-ce que tu es aussi dur que qu'André sur le?
Non, je suis un peu moins dur parce qu'il y a quand même.
Moi,
je suis d'accord sur le côté. Bon, la situation est alarmante aujourd'hui. Hein, on voit les entreprises et tout ça. Moi, je trouve que les seules entreprises qui bougent, c'est les entreprises qui vont à l'international. C'est les seules qui voient ce qui se passe à l'international et du coup, elles bougent. Donc, malheureusement, en France, on a beaucoup d'un tissu de PME, de TI qui ont quelques connexions à l'international et qui du coup ne se rendent pas compte de cette révolution. Et là, je pense qu'il y a vraiment... alors, je ne sais pas si une réunion comme avait été faite à l'Élysée à l'époque pour dire qu'il nous faut 25 licornes, Emmanuel Macron avait ramené tout le monde, ramené tout le monde pour dire au grand patron, il faut y aller. Je pense que là, il y a une vraie... À un moment, Philippe Aguillon disait, oui, s'il y a une réussite qui doit être jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est l'IA. Et je pense que là, il y a vraiment un très, très gros effort d'investissement, de mobilisation, mais vraiment mobilisation générale, quoi. Au niveau des administrations, mais c'est sans délai. C'est de dire, mais ce soir, c'est de réunir tous les patrons des grandes administrations et de leur dire qu'est-ce qu'on vous fait en IA ? Et on lance. Et on lance parce que, déjà, je suis certain que dans la plupart, ils utilisent déjà plus ou moins ChatGPT un peu masqué. Donc, allez-y. Ça, c'est la première chose. L'argent, arrêtons avec les tabous. Quand j'entendais Mistral qui reçoit de l'argent de Microsoft, eh bien, qui reçoit de l'argent de Microsoft, quand SoftBank va peut-être venir mettre de l'argent, eh bien, qui reçoit de l'argent de SoftBank, il faut faire venir cet argent. On ne réussira pas sinon. Alors après, on nous dit, réfléchir l'épargne des Français. Alors, c'est ce que dit le rapport. Avant qu'on fasse bouger ça, et avant que les Français se disent, moi, mon petit appartement, là, ça me rapporte mon machin, alors que là, je vais investir dans je ne sais trop quoi. Donc, il y a toute cette éducation à faire autour des investissements. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder les deux, trois priorités, la formation. Moi, je pense que l'administration doit tout de suite passer, plus poser de questions. Ce soir, réunion, tous les patrons, les directeurs des administrations, on lance à fond. Accepter, essayer d'alléger au maximum pour attirer, toutes les règles réglementaires pour attirer des fonds étrangers. Il faut de l'argent.
C'est ce que disait André aujourd'hui. Un programmeur en développeur chez OpenAI, c'est $1 million, quoi. Comment on fait aussi pour les payer, ces gens-là?
On avait Cédric O qui était venu ici quand il y a eu ce plan à 1,5 milliard, et on pose la question à Cédric O, j'ai dit, mais 1,5 milliard, il faut les mettre où? Il a dit...
Dans les salaires.
Et c'est ça. Et en plus, il faut repérer. Alors, c'est comme au foot, il faut repérer les 4-5 Mbappé du coin. Et c'est eux qui vont entraîner, les Arthur Mensch. Ils sont pas nombreux. Mais justement, si on les repère bien et qu'on les calibre bien, on peut y aller. Donc, moi, je suis, optimiste. Je suis plutôt pessimiste, justement, par rapport à la situation. Mais je me dis, voilà, c'est vraiment l'action. Le rapport est super bien. En plus, on les connaît tous. Là, il y a Nequin, les Luc Julia, les Cédrico. Enfin, tous ceux qui sont dans ce... Et on voit un peu quelles préconisations. En plus, il y avait des juristes qui étaient dedans. Donc, on voit que tout ça, il y a un vrai plus. Ils connaissent parfaitement. Ils savent ce qu'il y a à faire. Maintenant, c'est faire... Comment on fait pour, à la baïonnette, là, aller piquer la fesse de...
C'est moi ce qui me semble surprenant. C'est que tout le monde répète à corps et à cri que ce qui compte, c'est pas les grands concepts, mais c'est la mise en œuvre et la rapidité de mise en œuvre.
Et voilà.
Et à nouveau, on est au niveau de... Et j'insiste, il y a trois énormes impasses dans ce rapport. L'énergie, on en a assez parlé. Deux, les semi-conducteurs. Aujourd'hui, l'argent de Mistral passe dans les talents et dans les GPU de Nvidia. Et tu parlais de Grok, mais bon, Grok, c'est une option. Il développe ses fameux Language Processing Units, LPU.
Il n'a pas le temps de développer tout ça.
Oui, c'est ça le problème.
Non, mais le problème, c'est qu'il faut commencer. C'est-à-dire que aujourd'hui, Nvidia n'est pas éternel. Quand en 2018, Microsoft met un commit entre.
C'est-à-dire que pour toi, il faudrait une réflexion pour fabriquer nous-mêmes nos propres puces,
Mais aujourd'hui, Nvidia, c'est des puces GPU. Théo doit savoir ça beaucoup mieux que moi, qui sont basées sur quelque chose qui était fait notamment pour l'optimisation du jeu vidéo, c'est-à-dire le traitement des grandes images et des vidéos. Donc, on a utilisé ça pour faire maintenant du calcul matriciel, et donc c'est le mieux adapté au modèle de langage actuel. Mais c'est pas du tout la manière, par exemple, dont nous-mêmes, cognitivement, on travaille, dont nos neurones travaillent entre l'accès à la mémoire.
Tu veux dire par là qu'on pourrait avoir des puces encore plus optimisées?
Il y a toute une branche, c'est le concept de grotte d'ailleurs.
Bah, c'est en fait justement qu'il faut comprendre les GPU comment ça fonctionne, c'est qu'à la base, ce qui est déjà en place depuis longtemps, c'est qu'en fait, ça fait plein d'actions en simultané et que ça reproduit énormément d'actions en même temps. D'ailleurs, le cerveau fonctionne pas comme ça, il en fait une par une. Et entre autres, pourquoi est-ce que les puces de Grok fonctionnent beaucoup mieux? C'est qu'elles font les actions une par une.
Théo, tu as des actions chez Grok?
Non, mais parce que récemment, ce qui est sorti, c'est l'exemple parfait, mais il y en aura plein qui vont venir dans l'image, dans la vidéo, et il y a plein de startups qu'on ne connaît pas qui avancent là-dedans. Mais c'est l'exemple parfait de. Les GPU sont aujourd'hui ce qu'on produit le plus, c'est ce dont on parle le plus parce que c'est déjà le cas. Qu'on s'est rendu compte que, OK, on a ça, ça fonctionne, et vu qu'on veut se développer très vite, on prend ce qui fonctionne parce qu'il y en a beaucoup, et qu'en plus, ça fait pareil, il y a des grosses valorisations, c'est facile à mettre en œuvre, on n'a pas besoin de repartir de zéro avec des startups, mais clairement, c'est absolument pas l'avenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que même Nvidia travaille très probablement en interne sur des puces du même style que Grok, sur que soit sur le texte, mais aussi sur l'image, sur l'entraînement, etc. Mais que l'avenir ne se passera pas dans les GPU. Aujourd'hui, on parle énormément de GPU parce que c'est ce qui est utilisé, mais c'est utilisé parce qu'on n'a pas d'autre solution. C'est utilisé comme solution par défaut.
Et puis il y a aussi, faut voir aussi les entreprises aujourd'hui, elles commencent à choisir un type d'IA avec un type de processeur. Il y a les processeurs de Google qui sont très bien pour certaines IA qui font tourner du Mistral, qui font tourner de l'OpenAI, mais c'est, alors peut-être pas de l'OpenAI, mais ils font tourner en tout cas du Gemini sur de la puce développée par Google, et Google va avoir aussi les siennes. Amazon, enfin AWS, il y a la AWS Summit là dans quelques jours, on est partenaire, c'est le 4 avril je crois, ils vont parler justement de ce qu'ils sont en train de travailler sur les puces.
Le 3 avril,
on a nos amis de SoftBank qui veut investir dans Mistral, à qui appartient ARM ou ARM,
comment
le prononcer, eh bien ça c'est à SoftBank. Donc là il y a des choses qui sont en train de se mettre en place.
Je suis sûr que le président de la République écoute Tech & Co et François Sorel, et s'il nous écoute,
on espère.
Il y a deux choses tellement évidentes. Juste avant que tu m'interrompes, François, sur l'énergie. Oui, ça, les arbres ne vont pas augmenter au ciel, c'est juste pas possible. Donc il va falloir trouver une solution. On le sait. Qu'attend-on pour mettre 500 millions, 1 milliard dans un projet de recherche précis qui est développez-moi en 6 mois, en 12 mois, en 18 mois des algorithmes qui permettent de consommer des ordres de grandeur de moins. On a réussi à faire un vaccin en 8 mois.
Oui, c'est ça.
Tout le monde disait c'est pas possible, sauf que quand on concentre nos efforts. Donc ce qui manque dans ce rapport, c'est une priorisation. Et la deuxième chose, c'est les puces. C'est-à-dire aujourd'hui, Nvidia est à 98%, 99%. On a un monopole immense qui s'est créé.
Ils insistent beaucoup sur la partie puissance de calcul.
C'est l'énergie et les puces. Aujourd'hui, l'énergie, on l'a pas. Mais oui, mais.
Ils en parlent. C'est d'ailleurs l'un des gros investissements prévus dans le rapport.
Nous, on est partenaire du GenSea, qui est cette grande puissance de calcul qui opère Jean Zay et tous les grands centres de calcul. Mais aujourd'hui, eux, leur principal aujourd'hui travail, c'est comment est-ce qu'on s'approvisionne en puce A100, H100 de Nvidia. On en est arrivé là, quoi. Et la troisième impasse qui me semble absolument colossale, c'est l'Europe. Alors, on parle d'un fonds européen.
C'est ce qu'ils veulent faire dans le besoin de puissance de calcul. Ils veulent avoir du poids au niveau européen pour acheter des processeurs, pour acheter en masse des processeurs. Bon, après, il faut se lier avec les Allemands. Quand on voit déjà que les Italiens sont en train de sortir 1 milliard pour avancer eux-mêmes sur l'IA, je ne sais pas si l'unité européenne.
S'ils veulent compenser. Quand on voit l'avance de la Chine et des Américains ils ne vont pas avoir le choix s'ils veulent, même ne serait-ce que rattraper le retard, sans parler des bassins.
Mais c'est nous, avoir une unité européenne.
Non, mais avoir une coordination sur. On ne va pas pouvoir faire. Les grands projets. Où on veut faire quelque chose au niveau européen, mais enfin, il faut bien voir que ça ne marche pas. Par contre, des projets très spécifiques, on veut un vaccin, on veut une puce qui remplace Nvidia dans 2 ans, ça, c'est des choses tellement spécifiques qu'en plus, on peut les mesurer.
Ce qui manque pour ça, c'est pas assez, c'est, à part la partie formation, et
ça
encore,
manque de concret, ça manque de projets très concrets. Et ils sont là, c'est-à-dire c'est à notre main. Je rappelle quand même, et là Philippe Aguillon avait tout à fait raison quand il parlait du potentiel économique, je rappelle quand même que les 1,5 milliard que, alors c'est pas directement translaté, mais que Microsoft a mis depuis 2018 dans OpenAI, ben, en fait dans les 12 derniers mois, Microsoft a gagné 1 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc la création de valeur, elle est là, elle est immédiate. Et je rappelle que Microsoft vaut aujourd'hui plus que le CAC 40 réuni.
Théo, j'avais une petite question parce que durant ce rapport, on a évoqué l'impact de l'intelligence artificielle générative sur les métiers. Et en fait, Philippe et Anne ont pris par exemple comme les métiers de doubleurs, les interprètes, etc., qui vont être victimes de tout ça. À ton avis, est-ce qu'il y a d'autres métiers, d'autres secteurs qui vont être fortement impactés par l'IA générative ?
Tous vont être impactés à plus ou moins court terme. Ça va dépendre d'à quel point est-ce que justement les marchés s'adaptent rapidement. On parle... La première réflexe qu'on a, c'est de parler du marketing, mais c'est parce que le marketing adopte plus rapidement les nouvelles technologies. Tous les secteurs vont être impactés. On ne s'en rend pas forcément compte, mais par exemple, donnez-moi quelques exemples de secteurs et je trouverai des idées de quelques manières dont l'IA pourrait les aider, pourrait améliorer finalement la production, pourrait améliorer les différentes techniques. Donc aujourd'hui, tous les secteurs vont être impactés à plus ou moins long terme. Tous ne vont pas être impactés aussi vite les uns que les autres, mais tous vont être impactés. D'ailleurs, c'est ce qui est aussi expliqué dans ce rapport. D'accord. Moi, il y a un dernier point qui me gêne dans ce rapport, dont on parle pas, qui est le quatrième point bloquant pour moi. Parce qu'on parle beaucoup de l'éducation, on parle beaucoup du fait de former. C'est très bien d'ouvrir à comment fonctionne l'IA, d'ouvrir à ce que c'est. Mais il y a un gros point bloquant, et que je vis au quotidien, puisque je suis encore étudiant à l'ESSEC actuellement, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation n'est conçue sur un modèle où la valeur est donnée dans la connaissance, la valeur est donnée dans ce qu'on retient. Sauf qu'avec ces IA, le rapport à la connaissance pourrait être complètement changé.
C'est-à-dire la connaissance, en fait, elle est dans les puces, elle est dans l'IA générative, en fait, c'est ça ?
Entre autres, mais plus dans le modèle, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans les examens, on est obligé d'interdire les intelligences artificielles, alors que c'est censé être des examens qui simulent le monde réel, mais comme au final, ça biaise complètement le résultat et qu'on n'est plus capable aujourd'hui d'avoir une évaluation intéressante avec les IA, bah juste on fait, ok, on les bloque, on ferme les yeux, on met des œillères et on ne pense pas, en fait, c'est même plus utile parce que c'est plus un vrai examen, c'est plus comme dans la vie réelle. Dans la vie réelle, demain, par exemple, ok, je vais avoir un examen en école de commerce ou dans les études supérieures, je dois rédiger une lettre de motivation, je dois rédiger un CV, et on va me demander de ne pas le faire avec de l'IA. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait m'apprendre? Pourquoi est-ce qu'on devrait m'entraîner?
C'est l'inverse.
Pourquoi est-ce qu'on apprend des choses
Donc il faudrait ouvrir ChatGPT dans les écoles, c'est ça, à ton avis?
Je pense qu'il faut complètement repenser. Par contre, en l'ouvrant, ça ne servirait plus à rien parce que les résultats seraient complètement biaisés, on valoriserait mal les élèves et le travail, mais il faut complètement, c'est un travail extrêmement dur à faire, extrêmement long et complet, mais c'est un travail qui est nécessaire de complètement repenser notre rapport à la connaissance, de complètement penser notre rapport à l'éducation, l'éducation dont la forme n'a pas changé depuis maintenant plus d'un siècle, avec toutes les innovations qu'on a eues, avec Internet, avec les communications, ça n'a pas changé.
Totalement d'accord. Ça fait 100 ans que l'école de Jules Ferry, c'est un prof, 30, 40, 50 élèves devant, alors qu'on sait tous, certains apprennent de manière visuelle, certains orales, certains en écrivant, etc. L'IA a cette capacité de potentiellement pouvoir faire de beaucoup plus de l'apprentissage personnalisé, ce qui veut dire qu'on va apprendre les MOOC plus vite. Et l'autre chose, c'est ce que disait Théo.
Les MOOC, ça n'a pas marché.
Peut-être, mais à nouveau, il faut expérimenter, ce qui est sûr, non, mais surtout le changement, la chose la plus importante.
Les MOOC, la manière dont c'est présenté aujourd'hui, parce que je le vis très clairement, j'ai affaire à des MOOC, un MOOC chaque semestre, c'est simplement, ok, voici ce que vous devez faire, vous devez juste en valider un, rien n'est surveillé, et donc tout le monde, on a simplement, on envoie les questions à ChatGPT des examens finaux, ça nous prend 20 minutes, le MOOC est terminé.
Je me souviens qu'il y avait un autre rapport qui avait été remis au président sur les lumières du 21e siècle. Je crois que c'était Gérald Bronner qui présidait ce rapport, dont on n'a plus jamais rien entendu parler. Pas de Gérald Bronner, qui, je pense, doit être un peu dépité. Et je pense que c'est vraiment ton point, c'est de dire comment est-ce qu'on repense l'éducation et peut-être ce mythe de l'honnête homme et de l'honnête femme du siècle des Lumières, c'est de dire finalement on va plus apprendre à apprendre et quels sont aussi nos points forts, on est quand même dans une compétition de valeurs avec d'autres pays, quels sont nos points forts en tant que démocratie, c'est l'esprit critique, c'est pas l'apprentissage pur et simple, parce qu'en plus l'apprentissage, on va de moins en moins être performant par rapport à cette encyclopédie. Ça n'a plus aucun intérêt. Et donc repenser entièrement, je crois que c'est l'État de New York qui depuis un an, depuis OpenAI, a changé la manière dont les examens sont faits. C'est-à-dire aujourd'hui, les exposés faits à la maison, terminés.
Ça me fait un peu penser anciennement au copier-coller, qui était la bête noire en fait des enseignants, et qui finalement, petit à petit, n'est pas rentré dans les mœurs, mais disons que ça a été fait de manière plus intelligente et on a réussi à en fait s'accaparer cet outil de l'Internet. Ouais. C'est pareil sans doute avec l'IA générative. Je vous propose de marquer une petite pause, messieurs. Théo, André et Fred, on revient dans un instant. J'en perds la voix, 21h, dans une petite minute. Je vous propose de changer de sujet et de nous intéresser à TikTok. TikTok qui est dont l'étau se resserre aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça commence à être impressionnant. Et il y a même des rumeurs de rachat de la filiale américaine de TikTok. Mmh. Je vous propose d'évoquer ce sujet dans un instant. Tech & Co, la quotidienne, le débrief revient juste après cette petite pause. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. On débriefe l'Acutec encore pendant un petit quart d'heure. Et puis, juste après, je recevrai le directeur général de Rakuten TV. Vous connaissez Rakuten, qui est un site de e-commerce. C'est aussi une chaîne de télé disponible sur les télés connectées un peu partout, sur tous les écrans. On s'intéressera à la stratégie donc de Rakuten TV dans quelques minutes. Mais pour l'heure, toujours pour débriefer l'actu, Frédéric Simotel, que vous connaissez, journaliste à BFM Business, André Losgue-Pietri du Jedi et Théo Leblanc, fraîchement arrivé dans le débrief de Tech & Co. Bienvenue encore une fois Théo, expert réseaux sociaux et IA, et du haut de ses 17 ans a une connaissance en fait de ces sujets tout à fait respectable ma foi. Hein, alors, on va arrêter l'IA, quoi qu'on va y rester quand même aussi, puisque TikTok c'est de l'IA, hein, les algorithmes de TikTok, le fait qu'on soit addictif à TikTok à partir du moment où on a commencé à scroller, bah, c'est de l'intelligence artificielle. Et on va en parler maintenant parce que TikTok pourrait être interdit aux États-Unis. Hier, une étape a en tout cas été franchie puisque la Chambre des représentants a adopté un projet de loi qui ordonne à Biden de céder le réseau social et de couper les ponts avec la Chine. C'est un vrai séisme. Le texte a été voté à une très large majorité, mais il doit encore passer par le Sénat. Sur ce point, au moins, républicains et démocrates sont d'accord. Mais est-ce qu'on a raison de s'inquiéter au sujet de TikTok? C'est l'angle qu'a choisi Anthony Morel. On écoute, c'était justement son petit point, son intervention ce matin dans Good Morning Business.
On va pas se mentir, hein, TikTok c'est un aspirateur à données, ça c'est très très clair. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait se dire, c'est un nouvel épisode de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, tout ça c'est politique. En fait, on se rend compte que partout dans le monde, des mesures comme ça commencent à être prises. Ne serait-ce que dans les administrations, il y a beaucoup de pays qui ont interdit à leurs fonctionnaires, sur les smartphones distribués aux agents publics, d'installer TikTok. C'est le cas en France, c'est le cas en Belgique, c'est le cas au Royaume-Uni, en Australie, au Canada. Et puis il y a des pays, comme l'Inde par exemple, qui... j'allais dire élargissent cette interdiction à l'ensemble de la population. TikTok est complètement bloqué, c'est la voie que semblent prendre les États-Unis. Alors est-ce que c'est juste de la parano? Il faut se pencher du côté des experts en cybersécurité pour avoir des réponses, et là les réponses elles sont pas forcément très rassurantes. Dès 2020, on a deux chercheurs américains qui ont démontré que TikTok sur les iPhones avait accès au presse-papier de l'iPhone, c'est-à-dire que hors de l'application TikTok, tout ce que vous copiez dans le presse-papier
jaune là, où on écrit des choses,
exactement, où je sais pas, vous allez copier un mail, ça peut être un mot de passe aussi. Bah, tout ça, TikTok y a accès. Il y a un autre chercheur qui a montré que le navigateur intégré dans l'application TikTok permet à TikTok d'avoir accès en gros à tout ce qu'on tape. C'est-à-dire chaque frappe de clavier, à chaque fois que vous touchez le clavier, ça peut être analysé par l'entreprise. Ouais. Donc ça va quand même assez loin. Et il y en a un dernier qui a décortiqué l'application et qui explique que TikTok a accès à tout un tas de données sur nos smartphones. Et son conseil, c'est n'utilisez pas TikTok. C'est un service de récolte de données qui se présente comme un réseau social. Donc là, tout est dit, c'est assez clair. Alors après, la question, c'est est-ce que ces données que TikTok siphonne, est-ce qu'elles remontent vers Pékin? Et là, l'attitude de l'entreprise, elle est quand même assez ambivalente, même contradictoire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, quand le patron TikTok est auditionné par le Congrès, il dit non, jamais de la vie, j'ai jamais reçu de demande de Pékin en ce sens, et même si c'était le cas, je n'enverrais pas les données. Bon, sauf qu'en Europe, on sait très bien, et TikTok l'a admis, je les cite hein, d'ailleurs, que les données des utilisateurs européens peuvent être consultées selon les besoins du service par des employés en Chine, ce qui n'est pas forcément rassurant là non plus.
Voilà, après on va dire l'épisode Huawei qu'on a connu il y a quelques années, voilà, tout ce qui provient de la Chine.
Et avant celui des voitures, parce que je pense qu'on va y arriver.
Oui, bien sûr, les voitures chinoises, bien évidemment, qui commencent d'ailleurs à être pointées du doigt aux États-Unis, hein, oui. Parce que évidemment, c'est des aspirateurs à données, comme le disait Anthony. Donc là, focus sur TikTok. Faut-il s'inquiéter de TikTok? Et c'est vrai que si tout ce que dit Anthony est quand même vrai, c'est effrayant, le fait que d'avoir le copier-coller de votre iPhone qui part directement sur les serveurs de TikTok. La question, André, et on va commencer par toi, est-ce que, on va dire, les États-Unis ont raison d'être aussi vindicatifs et aussi, on va dire, clivants concernant TikTok, le fait de le sortir, de l'éjecter, quoi?
Je crois qu'on voit avec ce qui se passe en Ukraine qu'on est complètement rentré dans la guerre cognitive. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une guerre d'information, de désinformation. Une plateforme... Alors au-delà de la fonction copier-coller qui est effectivement effrayante, le fait qu'on a en permanence ce que vous aimez, ce que vous aimez pas en fonction de types de vidéos très très différentes, donne extrêmement rapidement un profil psychologique assez puissant. Et donc en fait, on vous connaît parfois mieux que vous-même. Un peu comme quand on va dans un site de e-commerce qui vous propose des choses auxquelles finalement intuitivement vous pensiez, mais vous n'aviez pas exprimé ce besoin. Donc je pense que c'est pas du tout insensé de se dire qu'une plateforme dont on maîtrise pas vraiment les propriétaires où va l'information et encore moins si l'information va dans un régime autoritaire. Donc je pense que c'est une et deuxième chose, François, tu introduisais le sujet en parlant de dépendance. On est quand même sur des drogues et je pense que ça peut sembler très conservateur de dire ça comme ça. Je pense que les démocraties n'ayant pas complètement mis à jour leur logiciel, on est encore sur des élections, les gens, je veux dire, les millénials forment plus que 50% de leur opinion politique sur les réseaux sociaux. Donc ça a une influence considérable, donc je pense que oui. Par contre, je ne pense pas que ça va arriver, parce que, un, Biden, sa réélection dépend aujourd'hui de la Gen Z, qui est sur TikTok, et je pense que notre Premier ministre, à nous aussi. D'ailleurs, c'est quand même assez marrant, nous, on est sur le point d'interdire Shane, hein, parce que notre priorité, notre première des priorités, c'est l'environnement, donc le fast fashion va passer à la trappe. Très bien. Mmh. Les Américains, eux, s'intéressent plus à la guerre cognitive et à la désinformation. Je pense que les deux sont importants.
Théo, juste une petite question personnelle. Est-ce que tu es un utilisateur de TikTok ?
Absolument pas. J'ai toujours refusé d'installer l'application et j'ai un dégoût profond pour ce format de vidéo court parce que justement sur ce côté-là très addictif, très divertissant et dans sa forme telle qu'elle est. Où en 60 secondes, on ne peut pas retenir quelque chose, on ne peut pas vraiment apprendre une information qui sera utile derrière.
Donc, mais moi, j'imagine que tu as des potes.
Ma sœur, simplement.
Ta sœur est sur TikTok. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu la vois scroller pendant des heures, il parle plus. Non, mais est-ce que tu arrives à la sensibiliser, parce que c'est ce que disait parce que ça va être le plus dur maintenant. Comment expliquer aux gens que depuis 2-3 ans vous utilisez un réseau social qui est abrutissant, qui vous hypnose et qui
c'est très pavlovien,
est contre-productif.
Hein, tac, on clique, on a le morceau de sucre. Enfin, pour ceux qui se rappellent de l'expérience de Pavlov, c'est ça.
C'est ça. Ouais, Théo.
Mais par contre, voilà, il y a deux points déjà là-dessus. Oui, malheureusement, je ne suis pas un professionnel dans la gestion des addictions des drogues, et donc je ne suis pas forcément les bons termes, parce que oui, c'est une drogue. Et c'est la même chose que, par exemple, quand on a un proche de sa famille qui tombe dans la cocaïne, qui tombe dans ce genre de choses, c'est exactement les mêmes effets sur le cerveau. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais donc, malheureusement, oui, j'ai
Je pense qu'on peut quand même se sevrer plus facilement de TikTok que de la cocaïne, hein. Je pense.
Sur les effets sur le cerveau cognitif en termes d'addiction, pas tant. Enfin, c'est le même type d'effet en tout cas. Mmh. Donc, c'est pas forcément exactement aux mêmes échelles. Je maîtrise pas assez exactement au niveau des neurones les quantités, mais c'est exactement les mêmes effets en tout cas en termes d'addiction. Donc là-dessus, c'est ça qui est dangereux. C'est ça le gros problème. C'est pour ça que on n'est pas capable de s'en passer. C'est lié à plusieurs mécanismes, les récompenses variables, le fait de justement que l'algorithme connaisse parfaitement qui on est, mais pas que. Et le deuxième point, c'est aussi qu'il y a quand même. Alors ça, c'est le problème, mais il y a un côté très hypocrite quand même sur ces lois, voilà, sur ces choses-là. C'est que on s'en place sur TikTok. On met ça en avant quand ça parle de TikTok. On en a quand même très rarement parlé, très rarement par rapport à Facebook, par rapport à YouTube, par rapport à Instagram. On l'oublie quand même, les vidéos sur TikTok et Instagram, c'est exactement les mêmes. J'ai beaucoup d'amis créateurs de contenu, ils publient exactement les mêmes vidéos en même temps sur Instagram et TikTok. Ça ne change pas, le contenu est le même.
Et Instagram et Facebook est aussi aspirateur de données que TikTok.
On parle de TikTok.
Non, là, le sujet, c'est que c'est les données partent potentiellement en Chine.
Mais nous, Européens, André, le fait que les données partent aux États-Unis, est-ce que c'est une bonne chose?
Mais d'ailleurs, justement, le sujet là-dessus, c'est ça.
On est complètement.
C'est le papier d'Anthony, c'était ça. Hein, c'était plus sur le.
Alors, Anthony dit, parce que j'en ai parlé avec lui ce matin, certains experts disent que TikTok, c'est beaucoup. Il y a beaucoup plus de données qui remontent dans TikTok que le fait, par exemple, Meta, ce soit Instagram, Facebook ou même WhatsApp.
J'ai le contre-exemple. Est-ce que vous vous rappelez de Threads, la copie de Twitter qui a été faite par Meta? Pourquoi est-ce qu'elle a été bannie en Europe pendant assez longtemps? C'est parce qu'elle prenait littéralement quasiment toutes les données disponibles sur téléphone, y compris les données de santé, y compris les données de géolocalisation en permanence. Ouais. En termes d'aspirateur à données, Meta est quand même pas mal.
Oui,
pas l'oublier.
Et parce que c'est leur business, rappelons-le. Hein.
Bien sûr.
Parce que c'est en vous ciblant qu'ils arrivent à vous trouver de la publicité qui va matcher. Mais est-ce que tu pourrais comprendre que TikTok pourrait être banni, en fait? Aujourd'hui, est-ce que tu représentes les jeunes aujourd'hui de 17-18 ans? Est-ce que on pourrait enlever cette application sans que ce soit un tollé général, une révolution?
Je pense que oui, que simplement les usages se détourneraient ailleurs. Pourquoi pas YouTube Shorts, pourquoi pas Instagram, parce que c'est les mêmes contenus. L'habitude changerait juste de support. Après, voilà, faut le rappeler, ce serait plus une décision purement géopolitique et pas tant au niveau des données. Si c'était vraiment au niveau des données, dans ce cas-là, on ferait un peu comme la Chine, on mettrait un temps d'écran sur les réseaux sociaux, on contrôlerait beaucoup plus les algorithmes et le fonctionnement là-dessus de tous les réseaux et pas uniquement de TikTok. Non, oui, c'est possible, mais vraiment de la pure géopolitique.
La crainte, et on va voir comment ça va réagir en Chine, c'est, Anthony disait, il y a ce côté guerre commerciale Chine-États-Unis, c'est que si on revient aux États-Unis et si TikTok doit être banni, racheté, etc.
Ouais. Les conséquences.
Conséquences en Chine vont être assez lourdes.
Commerciales. Hein,
c'est ça. Quelqu'un comme Apple qui vise tout son marché.
Je pense que Tinkou doit commencer un peu à frissonner.
Je pense que là, les Chinois, ils vont pas se poser de questions. Ils disent, bon, ok, vous arrêtez ça, on arrête Apple tout de suite, et puis on va voir. Avec Apple qui vise une forte croissance toujours en Chine.
Ouais, ça me fait penser à la taxe européenne des GAFA que notre gouvernement mettait en avant, et les États-Unis ont dit ok, bon, on va taxer le vin maintenant, vous allez voir.
Il va y avoir ça, et finalement cette taxe a disparu. Ensuite, quand tu connais la mentalité chinoise, ils te disent attendez, nous tout est clair. Enfin, voilà les infos qui remontent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le sait. Oui. Tout est clair, hein. Tout est mis noir sur blanc.
Donc,
si vous voulez pas nous utiliser, enfin, si vous voulez pas que les données rentrent, vous nous utilisez pas. Enfin, nous, on réagit. Et les Chinois, j'avais discuté avec eux au Mobile World Congress, des gens de China Telecom qui me disaient, nous, on préfère travailler en Europe parce qu'au moins en Europe, le cadre est clair. Alors, on s'y conforme, on s'y conforme pas. Voilà, au moins, il y a un cadre, il y a des règles. Dit aux États-Unis, le problème, c'est que les règles, elles changent selon le président, elles changent selon les États, parce que ça aussi, on en parle, mais est-ce qu'il n'y a pas des États qui vont dire si moi je garde TikTok, hein. Donc là aussi, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais moi, ma première crainte, alors je suis d'accord avec toi, chez nous on s'occupe de Shein, et puis au lieu de s'occuper, enfin voilà, ça c'est un autre débat. Mais la première chose, c'est la réaction des Chinois,
parce que effectivement il existe TikTok en Chine. Mais c'est pas du tout la même chose.
Non, c'est
ça s'appelle Douyin. Évidemment,
c'est éducatif.
C'est éducatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même contenu, les algorithmes ne sont sans doute pas les mêmes. Enfin, il y a plein de vérifications, etc., etc. Et on voit que le même outil, finalement, utilisé par deux, on va dire, deux civilisations différentes, change complètement de
profil. Oui, mais il y a aussi, il y a véritablement une volonté du côté du gouvernement chinois de ne pas laisser des outils, d'abord, qui ont une grande liberté, tous ces espaces de liberté sont maintenant de plus en plus bannis. Et deuxième chose, l'aspect, je pense, addictif de tous les réseaux sociaux a été, pour le coup, clairement perçu, mais pas forcément pour des raisons de valeurs humanistes comme on pourrait les avoir ici, c'est juste aussi que c'était une menace pour la prééminence du parti. Je rappelle quand même que le Premier ministre en Chine a disparu. Alors, il n'a pas disparu. Là, il vient d'avoir un congrès en Chine. Il était tradition que le Premier ministre s'exprime. Ça, il ne s'exprime plus. Donc, on a une personne.
Et ça arrive de temps en temps, des personnalités comme ça qui sont...
C'est sûr. Non, c'est pour ça que je le précise.
Jacques Ma,
mais peut-être quand même un peu...
Il y en a eu d'autres aussi. Une sportive aussi, je crois.
Le patron de Fosun aussi. Oui, une tennisman. Le patron de Fosun aussi, qui était le patron quand même du Club Med, au passage.
Donc, la prochaine étape, c'est est-ce que TikTok sera vendu, en tout cas racheté par...
On évalue, tu m'as dit l'évaluation, c'est combien ?
Visiblement, ça coûterait plus de 100 milliards, TikTok. C'est beaucoup d'argent, en tout cas, rien que la filiale américaine. Mais on en reparlera la semaine prochaine, car l'heure tourne. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Théo.
Avec plaisir, merci pour l'invitation.
Théo Leblanc, donc, qu'on peut retrouver sur LinkedIn, sur un peu partout aussi. Tu es sur LinkedIn, c'est sur où ?
Une newsletter, du coup, qui s'appelle...
La newsletter.
IA émergé.
Voilà.
Disponible sur le profil LinkedIn.
Théo Leblanc, donc. André, évidemment. Merci d'être là.
Merci François, et le bonjour à tous les membres de la commission IA.
André Losgul-Pietri, donc du Jedi. Et merci à Fred Simotel.
Oui, et puis on parlera justement de ingénierie sociale dans Tech & Co Business ce week-end, parce qu'on a la société qui s'appelle Another Way. Ouais. Et là où on parlait de ce que connaissent les réseaux sociaux sur nous, eux travaillent là-dessus. Il paraît que c'est assez impressionnant quand ils font une enquête toute bête sur nous.
Et ce sera ce week-end sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Cédric Dufour nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Vous êtes le président Europe de Rakuten TV. Ravi de vous recevoir, parce que c'est vrai que Rakuten est une marque que les Français connaissent et sans doute apprécient aussi, parce que vous êtes, enfin Rakuten est un site de e-commerce. Rappelez-vous, pour les plus vieux d'entre nous, c'était Price Minister avant que ce soit Rakuten. Vous avez racheté Price Minister en 2010, je crois.
En 2010, absolument, tout à fait. Ouais, non. Rakuten TV, effectivement, est une...
Et vous êtes un groupe japonais.
Voilà, c'est un groupe japonais, un géant de la tech et du digital au Japon, avec une marketplace, là aussi, qui est leader au Japon. Et on a beaucoup d'activités différentes, notamment l'activité VOD et streaming, dont le siège monde est à Barcelone. Et donc, je suis le patron de Rakuten TV, établi à Barcelone.
Donc, ça n'a rien à voir avec le e-commerce, on est d'accord ?
Rien à voir.
voilà, vous avez décidé de, bah, voilà, de créer cette, ce secteur, en tout cas cette filiale, parce que bah, voilà, la télévision aujourd'hui, elle évolue, on le voit, hein, on ne regarde plus la télé comme on la regardait auparavant, et vous êtes positionné, d'ailleurs, j'imagine que si vous nous regardez et que vous nous écoutez, si vous avez une télé connectée, on voit souvent le logo Rakuten TV, vous passez pas mal de partenariats avec les constructeurs de télé, c'est ça ?
Exactement, on a commencé il y a 12 ans, Rakuten TV, c'était une start-up à l'époque espagnole, d'où notre localisation à Barcelone, qui s'appelait Waki. Et cette start-up s'est développée, on est aujourd'hui présent dans 43 pays. Et vous avez raison, la façon dont on s'est développé, c'est principalement en nouant des partenariats avec les fabricants de télé, puisqu'on a un bouton Rakuten TV sur la plupart des télécommandes. Et lorsqu'on n'a pas de bouton sur la télécommande, on a notre application qui est positionnée en première page de toutes les interfaces télé.
C'est la ça façon... a dû vous coûter cher, cette histoire-là.
Ça nous coûte encore cher, mais c'est la façon d'accéder à 150 millions de foyers en Europe.
Et ça paye ?
Et ça paye. Alors l'avantage, c'est que quand vous achetez une télé, vous la gardez en moyenne 7 ans. Donc on paye le bouton une fois et ensuite on a 7 ans de retour sur investissement. Et tout notre l'enjeu pour nous, c'est que les gens appuient sur le bouton.
Voilà.
Et une fois qu'ils appuient sur le bouton, ils restent surtout. C'est ça qui est important.
C'est ça, parce que vous êtes évidemment dans un sur un marché, un secteur ultra concurrentiel. Hein. On ne va pas parler des Netflix, des Disney+, des Paramount+, des MyCanal en France. Même si vous ne faites pas tout à fait la même chose, mais malgré tout, c'est du temps de cerveau qui est disponible pour l'un et il est pendant ce temps-là pas disponible sur l'autre. Finalement, TikTok aussi est un concurrent, hein, parce que...
Alors absolument, voilà. C'est pour ça que par rapport aux autres plateformes que vous venez de citer, on a une approche assez différente et assez singulière. On n'a pas d'offre d'abonnement. On avait une offre d'abonnement il y a longtemps, on a décidé de l'abandonner parce que c'était un marché très concurrentiel et également parce qu'on se rend compte, notamment aux États-Unis, que les gens se lassent d'avoir beaucoup d'abonnements, ils en ont trop, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps de regarder. Au moment en plus de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie, ils regardent ça avec un œil différent d'avant. Donc nous, on a une offre qui est très claire, soit payante pour les dernières sorties et ce qu'on appelle les blockbusters. Mais c'est du pay-per-view, donc vous achetez ou vous louez votre film à la demande. Et on a une offre qu'on a lancée maintenant, il y a 4 ans, de ce qu'on appelle l'AVOD, qui est de la VOD gratuite, avec de la publicité. Et on a également lancé des chaînes.
Donc on a des chaînes qu'on appelle Fast, hein,
c'est des chaînes Fast, tout à fait. C'est des chaînes Fast qui sont accessibles sur les téléconnectés, mais également sur des smartphones et sur les tablettes. Il suffit d'avoir une connexion Internet.
Voilà, alors c'est incroyable parce que ces chaînes Fast, c'est dingue. Je regardais un petit peu ce que vous proposez. Il y a une chaîne Fast, Les Amours, par exemple. Le jeu qu'on a tous connu, qui...
Alors, c'est quelque chose qui est très... Donc, on vient de lancer récemment.
Il y a plein de chaînes comme ça.
Ah, il y a Les Amours, des chaînes de Le Meilleur jeu. D'Arthur aussi.
Il y a une chaîne Motus.
Il y a une chaîne Motus, tout à fait.
Et donc, là, je me mets sur cette chaîne-là, et toute la journée... J'ai des épisodes de Motus.
Exactement.
C'est ça ?
Exactement. Et ces chaînes-là fonctionnent très bien.
Les gens regardent ça.
Les gens regardent. Et l'idée, justement, on a à peu près 100 chaînes par pays, dans les différents pays dans lesquels on est présent. Alors, il n'y a pas que des chaînes comme ça, évidemment.
Non, bien sûr.
Le but, c'est d'offrir un éventail de
chaînes. Il y a une chaîne Alerte à Malibu, par exemple.
On a une chaîne Alerte à Malibu. On a des chaînes de cinéma aussi, avec des films, puisque l'ADN de Rakuten TV à l'origine, c'est le cinéma. Donc, on a, sur la centaine de chaînes, on a à peu près une quinzaine qui sont nos chaînes à nous, avec la marque Rakuten TV, qui sont des chaînes de cinéma. On a également beaucoup de chaînes de news, évidemment, des chaînes de sport. Alors, on ne fait pas de live. En revanche, on a FIFA+, on a beaucoup de chaînes de sport disponibles, des chaînes de contenu enfant et également ce qu'on appelle le single IP, qui sont des émissions où on a une seule émission, un seul titre, en boucle, pendant des heures et des heures. Et finalement, la proposition de valeur qu'on a pour nos utilisateurs, c'est vous regardez ce que vous voulez. Et un jour, vous allez acheter un film parce que vous voulez regarder le dernier Oppenheimer, par exemple. Le lendemain, vous voulez regarder un film gratuit avec vos enfants, et le surlendemain, vous voulez regarder Euronews, que vous commencez sur votre télé et que vous finissez sur votre tablette quand vous êtes dans le métro. Et l'idée, c'est sur la même plateforme, vous allez avoir tout ce contenu-là disponible.
Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on parle du linéarisé, du délinéarisé. On croyait qu'avec l'avènement de Netflix, que finalement, le linéaire allait disparaître. Bah, finalement, vous êtes en train de le réinventer avec ces chaînes Fast.
On réinvente le linéaire avec une souplesse offerte, oui. Évidemment,
et une thématique
Internet.
Très précise et des chaînes de niche.
Des chaînes de niche, exactement. Et même, je dirais que la flexibilité et la pertinence, on l'a aussi dans la publicité. Puisque comme on a des données que n'ont pas la télé traditionnelle, ça permet d'avoir une publicité plus ciblée. Donc la perception, c'est intéressant. Il y a un certain nombre d'études qui paraissent sur la façon dont est perçue la publicité sur la télé connectée. Et elle est mieux perçue, moins invasive que sur la télé traditionnelle, parce qu'elle est plus pertinente. Donc c'est plus agréable pour les utilisateurs. Et c'est également bien pour les annonceurs, parce qu'ils savent que quand ils vont faire une publicité, elle sera reçue par des gens qui étaient leur cible.
Alors, vous n'étiez pas tout à l'heure avec nous lors de notre débat sur TikTok, qui est un aspirateur de données. Est-ce que vous aspirez autant de données que TikTok? Parce que c'est aussi un problème de vie privée, finalement. Alors, je suis devant ma télé, qu'est-ce que vous savez de moi?
Alors, on ne sait pas grand-chose de vous. Le peu qu'on sait de vous, on l'utilise pour améliorer la pertinence des recommandations. Et en revanche,
vous le savez parce que je me suis inscrit, je suis obligé de me créer un compte ou pas, c'est simplement...
Alors, si vous achetez et louez des films, là, vous devez créer un compte. Oui. En revanche, la partie gratuite, vous n'avez pas besoin de créer un compte. Je vous encourage à créer un compte. En général, on vous encourage à créer un compte parce que quand vous créez un compte, vous pouvez, si vous avez regardé le début d'un film, regarder la fin du film le lendemain, puisque évidemment, on vous reconnaît. Donc, il y a de multiples avantages. Vous pouvez créer une liste de favoris, etc. Donc, on vous encourage à créer un compte. Mais 90% des gens qui consomment notre contenu gratuit ne créent pas de compte.
Oui, le font comme Apple. Comme si regardait la TNT. Quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, Rakuten faisant partie, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, d'un écosystème où il y a la marketplace Rakuten en France. On est également propriétaire de Kobo, les liseuses électroniques. Et si les utilisateurs acceptent de partager leurs données, bien évidemment, c'est leur choix. On peut même, on ne le fait pas pour l'instant, mais on pourra même utiliser ces données-là pour avoir des recommandations encore plus pertinentes à nos utilisateurs.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez au Mobile World Congress pour annoncer justement encore plus de partenariats cette fois-ci avec les opérateurs télécoms. Ça veut dire quoi? C'est que vous allez arriver sur les box des opérateurs aussi?
Tout à fait. On a commencé ce partenariat il y a 2 ans en Espagne avec Orange Espagne. Orange Espagne faisait le constat suivant. Ils se devaient d'offrir un service de vidéo à la demande pour leurs clients, pour fidéliser leurs clients, mais ce n'est pas leur métier. Donc ils avaient un nombre de titres assez limité, simplement la possibilité de louer des films. Et nous, on leur a dit, si vous voulez, nous on a un portefeuille beaucoup plus important, on a des fonctionnalités plus importantes, donc on va gérer votre VOD pour vous. Donc c'est
en marque blanche ou alors
c'est
Rakuten.
C'est du co-branding, donc c'est le Video Club by Rakuten TV.
Okay.
Donc quand vous êtes sur l'interface Orange TV en Espagne et que vous regardez la télé, si vous voulez louer un film, vous le louez dans le Video Club by Rakuten TV et ça permet d'avoir accès à un catalogue beaucoup.
Et l'idée c'est de multiplier ça
Et on a multiplié ça. On a fait la même chose avec un opérateur qui s'appelle One and One en Allemagne. Mm-hmm. La même chose au Luxembourg. On va annoncer bientôt un partenariat équivalent en Angleterre, en Norvège. Pour l'instant, c'est limité à la partie transactionnelle, donc l'achat et la location. Alors la France, c'est relativement stratégique pour les opérateurs français, donc ils le
plus
gèrent
que dans d'autres pays.
Plus que dans d'autres pays, donc ils le gèrent en interne.
C'est
le
vrai
gère
que Free, par exemple, a son service de chaîne Fast. Enfin, et en plus, de SVOD gratuite.
Cette industrie, c'est une industrie de volume, évidemment. Il faut avoir du volume et les opérateurs en France ont suffisamment de volume pour pouvoir le gérer en propre. En revanche, les discussions qu'on peut avoir avec les opérateurs en France comme dans d'autres pays, c'est pour amener le Fast, également les chaînes Fast sur les box, ou pour amener la partie gratuite, la VOD, sur les box. Pour l'instant, la plupart des vidéoclubs qui sont disponibles sur les box sont payantes. Mais les opérateurs s'ouvrent petit à petit à ces chaînes Fast. La difficulté, c'est d'arriver à les faire cohabiter avec les chaînes traditionnelles.
Cédric Dufour, dernière question très rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ces géants de la SVOD se repositionnent sur un modèle qui vient un peu marcher sur votre plateforme. Blonde, c'est la publicité. C'est-à-dire qu'on voit Netflix aujourd'hui, un abonnement à 5,99 avec de la pub. Le gâteau publicitaire, il n'est pas infini. Est-ce que ça ne complexifie pas en fait votre modèle économique aujourd'hui? Netflix, Disney, il semblerait que même Apple lance son offre avec publicité.
Alors d'abord, justement, on a une offre très différente parce que nous, c'est gratuit. C'est pas moins, leur offre, elle est moins chère qu'avant, mais elle n'est pas complètement gratuite.
Mais ils vont diffuser la pub comme vous.
Tout à fait. Sauf que moi, la contrepartie de la pub, c'est que vous payez zéro. La contrepartie de la pub, c'est que vous payez un peu moins cher.
Mais ils ont des contenus plus premium aussi.
Ils ont des contenus, ils n'ont pas les dernières sorties. Le Oppenheimer, vous ne l'aurez pas sur ces plateformes-là.
Non, ils ont des contenus exclusifs, très qualitatifs.
Non, tout à fait. Donc on n'a pas le même contenu. Et sur la publicité, au contraire, on voit ça d'un bon œil parce que on a déjà un mouvement qu'on constate depuis 3 ans de budget des principaux annonceurs. Ils shiftent une partie de leur budget de la télé traditionnelle à la télé connectée. Parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent toucher une audience large, il faut qu'ils soient sur la télé connectée. Et plus il y a de monde sur la télé connectée, plus ce transfert va être accéléré. Donc au contraire, on voit d'un bon œil que le gâteau augmente. On aura une plus petite part, mais le gâteau sera infiniment plus grand.
Merci d'être venu sur le plateau de Tech & Co pour nous faire découvrir donc Rakuten TV, forcément sur votre télé connectée. Si vous avez le bouton Rakuten, sachez que Cédric a fait un gros chèque pour qu'il y soit. Merci en tous les cas d'être venu sur le plateau de Tech & Co.
Merci beaucoup.
Vous en êtes le président Europe. Et ce Tech & Co est terminé. Un vrai plaisir de passer cette soirée, cette semaine en votre compagnie. On se retrouve bien sûr, non pas lundi, parce que lundi ce sera Fred Simotel, mais il y aura bien évidemment votre Tech & Co la quotidienne. Moi j'aurai le plaisir de revenir mardi soir. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et merci de nous être fidèles. Les replays, les podcasts qui vous attendent, bien sûr. À très vite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.